Merci, merci de votre invitation, qui est toute récente. Alors j'ai un petit peu improvisé une réflexion qui est très générale, qui est effectivement tirée d'un ouvrage que j'ai fait paraître il y a un an, et qui est, et je me rends compte aujourd'hui en vous écoutant depuis ce matin, parce que je n'ai pas pu venir hier, à la fois ambitieux et qui me fait un peu peur, parce que c'est un risque que j'ai pris, d'une hypothèse, j'appelle ça une hypothèse empirique, à partir de mes propres travaux d'origine sur la France et sur l'Europe, et presque essentiellement centré sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais il se trouve qu'à partir de ce terrain, on va dire initial, d'expertise, j'ai eu la chance d'être invité ou de voyager, enfin comme beaucoup de chercheurs, et donc d'être au contact d'autres expériences, soit qui avaient un rapport avec la Seconde Guerre mondiale, mais dans d'autres aires géographiques, par exemple en Corée, ou alors en Amérique latine, à plusieurs reprises, mais pour des événements historiques qui, eux, n'avaient strictement rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale. Et c'est à partir de là que s'est élaboré, de manière, encore une fois, un peu spontanée, que j'ai essayé de formaliser dans ce livre, mais qui reste une hypothèse évidemment complètement ouverte et probablement critiquable à bien des égards, une hypothèse empirique qui consiste à dire, c'est ce que j'appelle la mondialisation de la mémoire, et si je devais être un peu plus précis, j'utiliserais maintenant le terme de mondialisation des régimes mémoriels, on peut trouver ce terme peut-être un peu plus précis, qui veut dire qu'on constate aujourd'hui, on peut constater, avec évidemment de très grandes différences, à une échelle mondiale, et non pas simplement régionale, comme l'Amérique latine ou l'Europe, une circulation d'idées, de concepts, de modèles qui signalent l'existence possible, probable, d'une forme de mondialisation des régimes mémoriels, c'est-à-dire d'attentes, de revendications, de discours, d'actions publiques ou privées et de réalisations étatiques ou émanant de la société civile au regard du passé local, national ou régional. Que ce soit un passé récent ou un passé très ancien, passé récent la Colombie, le passé très ancien par exemple l'esclavage, qui se ressemblent. Voilà, en disant ça, mon Dieu, j'ai inventé la poudre. Mais c'est quand même un phénomène qui, pour l'historien que je suis, est quand même relativement étonnant. Alors je m'explique. Ce que j'appelle régime mémoriel, donc ces situations que l'on peut observer dans des pays extrêmement différents, dans des cultures et des contextes extrêmement différents, avec des épisodes historiques de référence qui sont différents, leur ressemblance pose problème. Comment et pourquoi ? Alors, je précise tout de suite, pour qu'on comprenne ma démarche, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas forcément uniquement l'examen de différentes situations en elles-mêmes, mais plutôt le changement. C'est-à-dire, quand j'écoute aujourd'hui, par exemple, toute la question de la gestion du passé en Colombie ou dans d'autres pays d'Amérique latine, je pense à la situation de 45, puisque c'était mon domaine d'origine. J'essaie d'imaginer, je ne sais pas, par exemple, une commission vérité et réconciliation qui s'installe à Berlin en 1945. Tout le monde sourit immédiatement. Tout le monde sourit parce que ça a quelque chose de totalement incongru. Mais cette simple réaction montre l'énorme progression. Enfin, si c'est un progrès, j'en sais rien. Enfin, si, je pense que c'est quand même un énorme progrès. L'énorme différence qu'il y a sur un demi-siècle dans la gestion du passé des crises anciennes et dans la gestion du passé de crises récentes. Voilà, on a un changement fondamental et ce changement m'intrigue. Et voilà, ça c'est la premier constat très simple. Je vais essayer de dire des choses simples pour des problèmes qui sont quand même complexes hein, et que je ne maîtrise évidemment pas réellement. Enfin, la deuxième chose, c'est que dans mon esprit, il ne s'agit pas ici de faire de la comparaison. Si c'était la comparaison, bon, bien sûr, tout le monde en fait aujourd'hui, surtout sur ces questions-là, mais plutôt de poser une question plus profonde. Est-ce que ces ressemblances ne tiennent pas à une évolution générale qui aurait une dimension globale ou tout au moins ne tient pas à des formes de circulation, ce que j'appelais circulation d'idées, de concepts, par exemple de concepts juridiques ou par exemple d'acteurs, entrepreneurs de mémoire, associations ou autres, qui font qu'il y a une forme de, sinon de normalisation, j'en passe terme, en tous les cas de standardisation, de ressemblance dans la façon dont on va gérer les questions de mémoire. Troisième point, comment dire, de précaution, si je puis dire. Je n'aurai pas le temps de tout dire. Hein. Je vais essayer d'être très, très schématique. Enfin, pas d'être très schématique, d'être très bref au risque d'être schématique. C'est qu'évidemment, ce modèle que je présente n'est pas une réussite partout. C'est un horizon, c'est une tendance, c'est quelque chose vers lequel on tend. L'exposé de Ricardo va exactement dans le sens de ce que j'ai envie de dire. Alors, ce qui est d'autant plus intéressant. Enfin, pour moi, dans cette question-là, c'est que les passés dont il s'agit, les épisodes historiques dont il s'agit, la violence en Colombie, ou les dictatures au Chili, en Amérique latine, ou en ce qui me concerne, ça a été la Shoah en Europe, sont évidemment des passés hautement conflictuels. Or, c'est là où il y a quand même un paradoxe majeur, une vraie question. C'est là où le conflit a été le plus poussé, le plus aigu, avec des séquelles les plus lourdes à gérer, que l'investissement de mémoire a été le plus fort. Enfin, c'est un paradoxe apparent. C'est précisément parce que la crise ou les séquelles, par exemple pour la Shoah, ont été extrêmement difficiles à gérer sur le long terme, ce qui était une surprise, au fond, probablement, y compris pour les générations qui avaient vécu la guerre, que du coup, les sociétés concernées en Europe ont dû inventer de nouvelles manières de faire face au passé, voire de gérer une mémoire longue, ce qui est exactement ce qui se passe pour d'autres raisons en Amérique latine. Donc voilà, il y a, j'essaie de définir là une configuration, on va dire, de ma question, qui encore une fois est très générale, j'en ai parfaitement conscience, et pourrait être immédiatement contredite. Alors, à partir de là, c'est ce que j'ai fait dans le dernier chapitre de ce livre, j'essaie de procéder trois temps. La première, c'est d'essayer d'expliquer ce modèle, comment est-ce qu'on peut le décrire, c'est une sorte d'idéal type, on va dire. Quelles sont les explications possibles si mon hypothèse s'avère juste, c'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de comparer des situations hétérogènes, mais d'un mouvement qui concernerait l'ensemble, en tous les cas, au moins l'ensemble des sociétés démocratiques ou en voie de démocratisation, et enfin, quelles sont les limites, évidemment, de cette hypothèse. Alors, l'esquisse de modèle, je vais être encore une fois très schématique. En ce qui me concerne, quand je dois l'expliquer, j'étais en Argentine il y a 8 jours, où j'ai fait une série de cours, et pour essayer d'expliquer mon propos, je disais, le régime mémoriel contemporain peut se définir de façon assez simple, au fond, par un triptyque que vous allez tous immédiatement reconnaître, c'est le cas, connaître, reconnaître, réparer. Connaître l'histoire, reconnaître à la fois les victimes et les crimes, et réparer l'histoire. Modalité d'action ou triptyque qui se retrouve dans à peu près toutes les situations, notamment celles qu'on a pu évoquer aujourd'hui. Alors, ce triptyque, connaître, reconnaître, réparer l'histoire, repose, de mon point de vue, mais là encore une fois, c'est pas très original, sur une nouvelle conception du passé et de la place qu'il doit occuper dans le présent et qui s'est peu à peu imposée, notamment dans les situations post-conflictuelles, celle de la mémoire, bien sûr, mais celle de la mémoire, où c'est là j'ajoute mon petit grain à la discussion, celle de la mémoire considérée comme une valeur et pas simplement comme un processus. Bon, la mémoire est un processus psychique, individuel, évidemment, c'est un processus collectif, on va pas revenir là-dessus, on est tous d'accord là-dessus, mais depuis, on va dire, alors je le date on va, en gros des années 70, et après on peut entrer dans la discussion de savoir pourquoi, la mémoire est devenue une valeur, c'est une valeur idéologique, c'est une valeur morale, c'est une valeur marchande, c'est une valeur culturelle, enfin on peut décliner à l'infini. Ce qui veut dire que toute une conception du passé ancestrale, je ne parle pas de jugement de valeur, traditionnelle, a peu à peu été considérée comme une valeur négative. Le souvenir, c'est positif, l'oubli, c'est négatif. Enfin, je schématise évidemment à l'extrême. Enfin, vous voyez bien à quoi je fais référence, et je fais pas de choix. Hein. J'ai pas de choix entre le souvenir et l'oubli. Mais là aussi, il y a quand même, on l'a mille fois souligné, de tous les historiens de la mémoire le savent, à quel point le changement de nos sociétés contemporaines dans la gestion du passé, dans lesquelles auparavant l'oubli était une composante, enfin l'oubli, bon, moi je reviendrai sur le mot amnesty qui est un mot très ambigu par certains côtés, l'oubli en tous les cas, le silence, oui voilà, ça, je vais le dire tout de suite d'ailleurs, je vais dire non, c'est tout de suite, là je suis beaucoup plus ferme d'après mes propres travaux et recherches, l'oubli ça n'existe pas. Voilà. C'est-à-dire l'oubli social, l'oubli politique, au sens de « Ah, j'ai oublié la Shoah, ah bon, ça s'est passé comment ?» Ça n'existe pas. J'en ai rencontré des cas rarissimes de gens qui avaient, enfin de gens de responsables qui avaient oublié, mais oublié c'est carrément de la forclusion, c'est-à-dire ça avait disparu de leur conscience ce qu'ils avaient fait. Mais l'oubli au sens « j'ai oublié » ou « je veux oublier », ça n'existe pas. Ce qu'on appelle oubli, c'est fondamentalement un silence, silence imposé, silence choisi, silence officiel, silence imposé par la loi, silence imposé par les États, enfin, peu importe. Donc, c'est très important, parce que quand on a oublié, c'est difficile de se souvenir. Mais quand on a imposé un silence, la question n'est pas de se souvenir, mais la question est de parler. Libération de la parole, c'est un terme qu'on entend aujourd'hui tous les jours. Donc, je pense que la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, la tendance à dire, il faut parler, il faut exposer, il faut mettre sur la place publique, ce qui est tout le problème des régimes mémoriels contemporains, constitue un énorme changement par rapport, encore une fois, à ce qui a pu se passer dans des périodes, au fond, pas si lointaines, et notamment celle sur laquelle j'ai travaillé, qui est la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça c'est un premier point. Et donc, dans cette conception officielle, la question de l'oubli est devenue, par tendance, parce qu'elle n'a pas disparu, quelque chose de condamnable. Alors, j'essaie de décliner rapidement, je n'aurai jamais le temps de tout développer, ce triptyque. Alors, connaître le passé, ça n'a évidemment rien de nouveau. Mais on voit bien à quel point, bon, déjà, un constat simple, hein, les questions de mémoire ont pris une importance dans nos champs, en histoire et en sciences sociales, absolument considérable. Enfin, je veux pas jouer les anciens combattants. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur la mémoire de Vichy, enfin, le mot mémoire, je crois, ne m'est venu qu'après plusieurs années. Hein. Je voulais travailler sur la représentation de Vichy dans la société française. Bon, le mot mémoire ne m'est venu qu'au bout d'un certain temps. Mais quand j'ai expliqué à ceux, enfin, mes maîtres, entre guillemets, ce que j'allais faire, ils m'ont dit, mais t'es fou. Ça n'avait pas de sens. Le mot mémoire, je l'ai même pas entendu dans mes propres études d'histoire. Ça faisait pas partie des concepts qu'on étudiait en histoire dans les années 70. Aujourd'hui, il est absolument central. Vous ne pouvez pas faire des études d'histoire, de sociologie ou d'anthropologie sans, à un moment ou un autre, rencontrer la question de la mémoire. Donc là-dessus, je pense qu'on sera tous d'accord qu'il y a eu une explosion du champ des études, mais qui correspond aussi à l'explosion de ce problème d'un point de vue politique et social. Et là, il y a aussi un effet, comment dire, une caractéristique que j'ai vécue personnellement et que beaucoup d'entre vous, sans doute, Ricardo, tu viens de donner un exemple, et notamment dans toutes les formes de commissions possibles et imaginables, c'est à quel point cette recherche, la recherche en sciences sociales qu'on va appeler fondamentale pour aller vite, est liée aujourd'hui à une demande sociale, à une demande politique, avec des enjeux très lourds, avec des enjeux très lourds. Et là, voilà un changement qui m'a intéressé, la figure de l'historien, ou de l'historienne, ou du sociologue, hein, je suis pas raciste. Hein, mais ça veut dire quoi? La figure traditionnelle de celui qui avait un savoir sur le passé, je prends la figure par exemple du 19e siècle, c'était l'érudit. Et c'était l'érudit qui avait une fonction qui était de perpétuer le magistère du passé. L'historia magistra est, ça veut dire l'histoire était un magistère, un réservoir d'expérience dans un régime d'historicité qui regardait vers le futur. Aujourd'hui, l'historien ou le sociologue n'est plus ce magistère, heureusement d'ailleurs, c'est un expert. C'est un expert, c'est quelqu'un qui va avoir à résoudre un problème. Et là, bon, je reprends ce qu'a dit Ricardo, puisque c'est un peu la raison pour laquelle j'ai intitulé ce livre « Face au passé », c'est que, ne serait-ce qu'en prenant les mots, hein, « faire face à son passé »,« to cope with the past », il y a toute une série de déclinaisons, « le devoir de mémoire », « la Vergangenheitsbewältigung », vous pouvez prendre vraiment, il y a énormément de déclinaisons possibles de ce concept, le passé, dans nos sociétés contemporaines, est devenu un problème à résoudre. Et ça, c'est toute la discussion qu'on a depuis ce matin le montre. Alors, c'est pas la première fois, mais ce qui veut dire aussi que le travail historique, au sens large, encore une fois, des historiens, des sociologues, anthropologues, peu importe, a changé de nature. Il n'est plus exactement le même. Il est totalement inséré, pris dans des enjeux de mémoire, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, ça change également la nature des travaux historiques. Bon, je dirais un mot, par exemple, du Centre national de la mémoire ou d'autres de ce type, mais il se trouve que lorsque j'ai rencontré Ricardo et Gonzalo Sanchez à Bogota, j'étais fasciné par l'histoire de ce centre pour deux raisons. D'abord parce que j'étais fasciné par le travail accompli, je dis ça sans aucune flagornerie, mais j'étais fasciné parce que ce centre me rappelait mon propre institut, mais dans des conditions extrêmement différentes. Mon institut s'appelle l'Institut d'histoire du temps présent, c'est l'Institut du CNRS, tout ce qu'il y a de plus banal, mais son histoire ne l'est pas. Puisque à l'origine, c'était une commission créée par le général de Gaulle qui s'appelait la Commission d'histoire de l'occupation et de la libération de la France, créée en novembre 1944, la guerre n'est pas finie, avec pour objectif de recueillir des témoignages et d'écrire une histoire à chaud. Les témoignages ont été recueillis, témoignages de résistants essentiellement, bon, peu importe. Donc, alors, la grande différence, évidemment, je fais des comparaisons qui peuvent paraître, comment dire, outrées. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui, ce type de centre, il y en a plusieurs, hein, je pense à l'Institut national de la mémoire en Pologne ou d'autres, c'est que ces centres sont devenus polyvalents. Ils sont à la fois des centres de mémoire au sens où ils vont recueillir des témoignages, ce sont des centres d'histoire qui vont recueillir des archives et faire une première historiographie, ce qui était le cas, par exemple, de cette institution dont je parlais en France, mais ils vont aussi servir d'auxiliaire de justice. Enfin, je dis auxiliaire de justice pour aller vite. Ça veut dire que le travail qui est fourni va accompagner le travail judiciaire. Très grande différence avec la situation après 45. L'institut dont je parlais, l'ancêtre de mon institut, n'a jamais travaillé avec les cours de justice qui menaient l'épuration au même moment. Ça aurait même été quasiment impensable à l'époque qu'il y ait un tel mélange de gens. Bon, donc voilà, il y a une Le processus de connaissance en lui-même n'est pas nouveau, mais les modalités par lesquelles s'établit la connaissance historique a changé. J'ai encore combien de temps ? Bon, je laisse rapidement la question de la connaissance. Alors, la question de la reconnaissance et éventuellement de la réparation des fautes. Alors là, évidemment, on est au cœur du problème des régimes mémoriels contemporains. Ces réparations, bon, je ne vous apprends rien, peuvent être d'ordre symbolique, matériel, judiciaire. L'idée qui m'intrigue, alors encore une fois, peut-être je suis naïf ou je suis historien, alors voilà, historien, toujours des questions un peu parfois bizarres, un peu simples, mais comment se fait-il que des sociétés partout, de par le monde, se sont mis en tête qu'elles pouvaient agir sur le passé ? Voilà, c'est Ricoeur. Alors évidemment, je suis moi aussi influencé par Ricoeur, et on a à peu près les mêmes influences, mais quand même, cette notion, elle mérite réflexion, je ne vais pas la faire devant vous aujourd'hui, mais agir sur le passé, ça pose quand même un problème. Et justement, c'est agir sur le passé, c'est précisément la contrepartie du fait de ce que je disais tout à l'heure, à savoir que le passé est devenu un problème. Si c'est un problème, il faut le résoudre. S'il faut le résoudre, il faut des experts pour le résoudre. On va faire appel aux historiens, etc. Mais surtout, et qui va avoir à résoudre ce problème ? Eh bien, fondamentalement, les États, les pouvoirs publics, les pouvoirs officiels, sur initiative en général de la société civile. Voilà un autre élément. Alors bon, là encore une fois, je ne vous apprends rien. Pratiquement partout où il y a eu, dans des phénomènes de transition, où il y a des demandes, des revendications et des politiques de mémoire et de réparation qui sont mises en place, l'initiative est, de manière rarissime, celle des États. Elle vient toujours, y compris dans la question de la mémoire à la Shoah, je pourrais en parler pendant des heures, l'initiative est venue d'abord d'associations de victimes, de la société civile, etc. Donc c'est toujours le même schéma, mais quand même, les États interviennent après. Les États interviennent et c'est là où ça devient intéressant, parce que ça devient un problème qui change complètement d'échelle et de nature. Alors, je vais aller très vite dans mon idée. Comment se définissent ces politiques de réparation ou d'agir sur le passé ? Par l'invention de nouvelles normes morales, de nouvelles normes juridiques, de nouvelles normes judiciaires et de nouveaux rituels. Voilà. Alors, j'ai pas le temps de tout décliner. Les nouvelles normes morales, c'est évidemment tous les discours, enfin c'est notamment tous les discours de reconnaissance, d'excuses, etc., qui sont d'ailleurs dans une grande variation. Moi, j'avais pensé à quatre exemples, mais j'ai pas le temps. Je vous les dis rapidement. Willy Brandt, Chirac, Verhofstadt, Premier ministre belge, Barack Obama. On a quatre chefs d'État, donc on est au plus haut niveau. C'est vraiment au plus haut niveau. Willy Brandt, évidemment, 7 décembre 1970, s'agenouille devant le monument du ghetto de Varsovie, sans parole. Il y a pas de parole. Il n'y a pas de parole simple, c'est pas les mots pour le dire. C'est le geste en lui-même. Non seulement il est fort, mais il est inaugural. À ma connaissance, c'est un crime. Bon, Jacques Chirac, voilà, 95. On pourrait multiplier les choses. Mais Jacques Chirac, il y a une différence parce que Jacques Chirac ne s'excuse pas, reconnaît la reconnaissance de la France, mais ne s'excuse pas. Un peu comme Obama. Alors Obama, c'était le 27 mai 2016. Il n'y a pas longtemps, il y a l'année dernière. Il était à Hiroshima. C'est une des premières fois où un président, je crois même que c'était la première fois qu'un président américain se rendait à Hiroshima, mais il ne s'excuse pas. Il ne peut pas s'excuser. Le président américain, agressé par les Japonais, ne peut pas s'excuser, mais pourtant, il y a un discours. Donc, il y a toute une variation dans ces normes morales. Bon, les normes juridiques, alors, je fais une distinction, bon, il y a beaucoup de juristes dans la salle, une distinction entre les normes juridiques et les normes judiciaires. Les normes juridiques, c'est par exemple les lois mémorielles. J'étais à un colloque à Columbia il y a trois semaines sur les lois mémorielles, j'étais absolument stupéfait de voir l'ampleur de ce mouvement de lois mémorielles dans le monde entier, c'est-à-dire le nombre de pays qui ont promulgué des textes qui ont pour visée, c'est ça ce qu'on appelle les lois mémorielles, qui ont une visée de donner une norme sur la manière de parler du passé ou de l'intérêt interpréter est un phénomène qui s'est développé de manière exponentielle dans les 20 dernières années. C'était un phénomène relativement rare auparavant. Alors, je pourrais décliner ces normes juridiques ont un volet répressif, la répression par exemple contre le négationnisme, elles ont un volet normatif au sens comment faut-il nommer les choses, une des lois en France qui a déclaré que les événements d'Algérie devaient désormais s'appeler guerre d'Algérie, c'est donc une intervention du politique et une norme, puisqu'il s'agit d'appliquer, en plus avec des conséquences matérielles et juridiques, qu'il fallait désormais nommer de telle et telle manière un événement historique. Bon, je m'arrête là. Les rituels, c'est évidemment les commémorations. Les commémorations, c'est pas nouveau dans l'histoire. Mais qu'est-ce qui est nouveau? C'est ce que j'ai appelé, bon, à la suite de Kozelek, les commémorations négatives. Kozelek définit la mémoire négative comme une mémoire de accountability, la mémoire de la responsabilité. Bon, je prends juste l'exemple de la France, que je connais bien et j'irai plus vite. En 1993, vous le savez, sur pression d'association, Mitterrand a créé une commémoration qui est celle du Veldiv, pour aller vite, donc, qui est la commémoration de la rafle opérée par la police française en 1942, qui est la plus grande rafle de juifs en France occupée. Bon. Qu'est-ce qui est important dans cette commémoration? C'est d'ailleurs à cette occasion que Jacques Chirac, 2 ans plus tard, fera son fameux discours. Ce qui est important pour moi, je l'ai écrit il y a longtemps, c'est que c'est la première commémoration négative de l'histoire de France. C'est-à-dire, c'est une commémoration, c'est une journée nationale commémorative, donc on se réunit tous les ans, en général le président nouvellement élu va y prendre la parole de manière solennelle pour reconnaître une faute de la nation. Dans un pays considéré... Enfin, c'est pas la seule, comme étant fier de son histoire, ayant toujours célébré ses héros et ses martyrs, c'est une nouveauté absolument fondamentale. Or, ce dispositif des commémorations négatives se multiplie un peu partout par le monde, et même au niveau international, avec sous l'égide soit de l'Union européenne, soit de l'ONU, et en particulier sur la Shoah. Donc là, il y a ce phénomène de mémoire négative me paraît très important. Alors, de commémoration négative. Je précise que la commémoration négative est négative en ce sens qu'elle fait référence à un événement qui implique un crime et un responsable, mais qui est positive dans ses objectifs. Évidemment, elle n'est pas négative dans ses objectifs, elle est positive dans ses objectifs, mais c'est une forme d'inversion de l'histoire traditionnelle, notamment dans des pays, des vieux pays européens comme la France ou l'Allemagne. Bon, voilà, j'ai pas le temps de développer, il me reste 5 minutes. Bon. Alors, on a beaucoup parlé de la question des procès, enfin de la justice transitionnelle. Je dois vous avouer, je le dis d'une phrase, que le concept de justice transitionnelle m'a toujours embarrassé. Je ne sais pas trop quoi en faire. Si, je vais donner un exemple, parce que j'ai participé il y a très longtemps à un ouvrage de Yon Elster sur la justice transitionnelle qui avait traduit un de mes articles sur l'épuration. Et j'avais une discussion avec lui, et j'ai su lui dire, je ne comprends pas exactement ce que signifie le mot justice transitionnelle par rapport à l'épuration, qui était l'exemple même de justice qui était effectivement en période de transition, mais tout sauf transitionnelle. Enfin, c'était de la justice pénale, aux limites d'ailleurs des principes du droit. Donc c'était même justice qui était par ailleurs très contestable. Donc ce que je voudrais dire là dans mon modèle, c'est qu'évidemment la justice transitionnelle en fait partie, c'est une nouveauté radicale par certains côtés, mais que par ailleurs, on l'a vu, on vient d'avoir une discussion là-dessus, la justice entre guillemets traditionnelle a elle aussi profondément changé par rapport à ces questions. Alors je vais énumérer les choses. D'abord, on a quand même de nouvelles modalités sur la temporalité et l'espace juridique. L'imprescriptibilité et la compétence universelle, c'est pas rien quand même. C'est pas rien. La difficulté qu'on a eue en France, je prends que l'exemple de la France que je connais bien sur ce plan-là, pour appliquer la notion d'imprescriptibilité qui paraît aller de soi et aujourd'hui bien au-delà des crimes, par exemple concernant des génocides, qui demandent, enfin, il y a des demandes aujourd'hui pour qu'on l'applique à d'autres formes de crimes de droit commun, a été un bouleversement fondamental dans la conception du temps des sociétés modernes. C'est une banalité de le dire, mais il faut le rappeler. Quant à la compétence universelle, bon, vous savez tous quelle importance ça a, j'y reviens dans un instant. Bon, la deuxième évolution pour les procès qui m'intéresse beaucoup, c'est les procès pour mémoire. Bon, je me suis intéressé au procès français, je me suis intéressé au procès Eichmann, un peu au procès de Nuremberg. Il y a une évolution considérable de la fonction de justice. Aujourd'hui, le fait qu'un procès soit fait pour mémoire, c'est-à-dire avec la conscience que se développe à l'intérieur de la cour, avec toutes les contraintes qui existent malgré tout dans un tel dispositif, qu'il y a un procès pour l'histoire qui doit délivrer un récit même contradictoire sur une histoire passée, qui doit entendre des témoins, qui doit donner place parfois à des témoins qui n'ont rien à faire dans la cour. Tout ça aujourd'hui est admis au nom de quelque chose qui n'est pas la justice au sens traditionnel du terme, mais qui est une nouvelle conception de la mémoire. La justice est devenue un vecteur de mémoire et les acteurs, ça c'est mon idée, les acteurs de ce processus en sont parfaitement conscients et même le revendiquent. et même le revendique. Donc c'est, ça, c'est quand même une nouveauté. Bon, alors la place centrale des victimes, j'y reviens pas. Et donc, voilà. Alors, il me reste 3 minutes. Dans ces 3 minutes, je vais... alors, pourquoi ? Pourquoi ? Alors, si encore une fois, on me suit, on peut ne pas me suivre. Hein. J'ai conscience d'être extrêmement cavalier en allant très vite comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé qui puisse expliquer ce changement ? Alors, n'oublions jamais que les événements eux-mêmes, qui sont les événements de référence, jouent leur rôle. Je reviens sur la Shoah. Le caractère exceptionnel du génocide des Juifs par les nazis a induit des formes de gestion mémorielle, d'abord a induit des formes de séquelles exceptionnelles, il ne faut jamais l'oublier, hein. Et qui aurait pu imaginer en 1945 ou même en 1950 que 50, 60, 70 ans plus tard, on en soit encore à discuter des séquelles du génocide des Juifs, alors même qu'à l'époque, on essayait au contraire d'en parler le moins possible, c'était inimaginable à l'époque. Donc il y a déjà le poids de l'événement. Et ça, ce que j'ai compris... Au départ, j'avais le sentiment que la Shoah était une sorte de paradigme universel. Le régime mémoriel, plutôt induit par la mémoire de la Shoah, était une sorte de paradigme, enfin universel, qui s'était appliqué un peu partout dans le monde. Bon, j'ai changé d'avis, c'est clair qu'en enfin, en tous les cas, ce que j'ai pu voir en Amérique latine, en Colombie, un peu en Argentine, on est dans quelque chose qui n'a évidemment rien à voir, mais où le processus est similaire. C'est-à-dire le poids de la violence, l'ampleur de la violence induit une mémoire qui est une mémoire longue. Mais là où il y a une originalité, c'est que cette mémoire longue n'est pas uniquement dans le registre du ressentiment, voire de la vengeance, elle est de l'autre côté. C'est ça qui est la... voilà, c'est ça qui paraît la nouveauté. Et bon, bref. Donc, ça, c'est un premier point. La deuxième chose, mais là, ça n'est pas très, très original, l'émergence des droits humains. Pardon, il y a un droit de l'homme. C'est un réflexe. Mais l'émergence des droits humains comme idéologie transnationale, ça va de soi, mais avec quelles conséquences ? Les conséquences premières, c'est que ça a contribué peu à peu à saper deux principes majeurs, celui de la souveraineté nationale et celui de la raison d'État. Ça, c'est quand même, c'est ça ce qui est en jeu. Et en sapant ces deux principes, qui restent encore quand même assez solides, hein, malgré tout, hein, ont ouvert la porte, en tous les cas, la question de la mémoire a été un biais, un cheval de Troie contre cette raison d'État. Si je veux le dire d'un mot pour le cas français, le procès Papon m'intéresse moins par le fait qu'on ait jugé un ancien fonctionnaire de Vichy, où moi je n'ai rien appris parce que je savais tout, je suis très prétentieux. Allez. Par contre, ce qui m'a énormément appris, c'est qu'on pouvait en France juger un ancien ministre, qu'on pouvait en France juger un ancien responsable. Cette conception-là de l'État n'existait pas avant, en tous les cas, a été très difficile à faire prévaloir. On peut prendre d'autres cas dont on a parlé tout à l'heure. Là aussi, il y a un changement fondamental. Bon, une autre idée à laquelle je tiens beaucoup, je pense qu'il y a de manière générale dans le monde une crise du modèle de l'histoire nationale, c'est pas une surprise. Et cette crise, elle vient de beaucoup de choses. Bon, la mondialisation, bien sûr, mais je dirais on peut l'aborder dans la manière dont je l'aborde, je mets en avant deux choses. Ce que j'appelle la dénationalisation de l'histoire par le bas et la dénationalisation par le haut. La dénationalisation de l'histoire par le bas, ça veut dire que des revendications minoritaires, des revendications de groupes qui n'ont pas eu leur place dans l'histoire officielle, etc., etc., ce qu'on appelle l'histoire par le bas dans les années 70, qui a été un des éléments de l'émergence d'une histoire de la mémoire, ont fini par, enfin, saper en tous les cas, remettre en question le modèle d'une histoire nationale unique, y compris dans un pays comme la France, attaché à son principe républicain, etc. Bon, il y en a des exemples, hein, les subaltern studies, par exemple, l'histoire, toutes les histoires dites par le bas, histoire des minorités, histoire des femmes, ont contribué, histoire des femmes des années 70, hein, pas l'histoire du genre aujourd'hui, ont contribué à enlever la prééminence de l'histoire nationale, par le bas, si je puis dire. Alors par le haut, eh ben, c'est tout simplement la question de la justice internationale. Je ne vais pas revenir sur le débat, mais j'avais écrit un petit texte il y a très longtemps au moment de l'affaire Pinochet, où j'étais très... je ne sais pas quoi penser, en fait, de cette affaire Pinochet. J'aurais bien aimé que ce dictateur soit jugé. Il y a quelque chose qui me gênait, je le dis franco de port, hein, il y a quelque chose qui me gênait qu'il soit jugé à Bruxelles, je ne sais plus, ou à Londres, en tous les cas, enfin, à Londres. Bon. Pourquoi ça me gênait ? Parce que j'ai essayé... Arrêté. Bon, alors après, où il a été jugé, je ne sais pas. Bon. Mais j'essaie de m'imaginer Pétain jugé à Madrid ou à Berne. J'avoue que j'ai beaucoup de mal. C'est-à-dire que c'est là où... alors, à Berne, ça aurait été sans doute impossible, mais dans d'autres pays, avec la même logique, pourquoi pas ? Puisque, après tout, on était... bon, Pétain, enfin, je ne veux pas entrer dans le détail de l'histoire. Pétain s'était enfui, il a voulu rentrer. S'il n'avait pas voulu rentrer, il aurait été un fugitif. Et dans la conception de la compétence universelle, il aurait pu être jugé ailleurs. Mais vous vous rendez compte, la France aurait été privée d'un des plus grands procès de la libération. Donc, et c'est on disait tout à l'heure. D'une certaine manière, c'est l'un des paradoxes de la justice internationale. Elle peut avoir tendance à priver un pays, évidemment hors contexte particulier, d'une part de son histoire nationale. Et ça, ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui va de soi. Voilà. Bon. Alors, je mets un dernier point. Qui est, alors là, c'est un point très théorique, ce que je n'ai pas le temps de développer, c'est ce qu'on appelle la crise du futur. L'idée, au fond, qui sous-tend tout ça, c'est que nous vivons, enfin, au moins les sociétés démocratiques contemporaines, dans ce que François Hartog appelle le régime présentiste, c'est-à-dire où, en gros, l'idée du futur aurait disparu. Alors là, j'introduis quand même un bémol par rapport à ça, et c'est précisément le cas colombien qui m'y fait penser, et je terminerai là-dessus parce qu'après ce serait trop long. Il y a quand même deux manières de concevoir la mémoire, hein, ou même le devoir de mémoire, puisque c'est, après tout, nous sommes tous pris dans cette espèce de concept ou de normes morales, voilà, le devoir de mémoire. La première, c'est celle qui se produit, on va dire, de manière quasi biologique, lorsque les faits sont anciens de 20, 30, 40, 50 ans, on se rappelle. Rapport des sociétés européennes par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Là, le devoir de mémoire consiste à se tourner derrière pour dire « Oh là là, il ne faut pas oublier, il faut absolument ramener le passé dans le présent. Hein, » Et là, on va faire des politiques, des réparations, des mémoriaux, etc. Et puis, il y a les situations de pays qui sont en guerre ou en sortie de guerre, ce qui nous occupe aujourd'hui. Là, la question de la mémoire est totalement différente, puisque la mémoire, ce n'est pas la mémoire d'hier, c'est la mémoire de demain. Alors, et là, on se retrouve dans des situations qu'on peut aussi repérer dans des événements comme la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'Emmanuel Ringenblum ramasse toutes les archives du ghetto de Varsovie, pourquoi il fait ça? Pour sauver, bien sûr, les traces d'un monde juif qui disparaît, mais aussi pour avoir l'espoir infini, infime, que quelqu'un, peut-être un jour, demain, écrira l'histoire d'une catastrophe qu'il vit. Or, cette idée qu'on puisse envisager, parce que le cas colombien est exceptionnel dans le fait qu'on associe, j'irais même plus loin, dans le fait de dire que l'écriture de l'histoire future fait partie de la négociation de la réconciliation, ça me paraît vraiment, hein, on imagine la même chose au traité de Versailles, c'est quelque chose d'impensable, enfin bon, bref. Ça me paraît vraiment quelque chose de nouveau. En revanche, l'idée que la mémoire s'enracine au cœur de l'événement et non pas après, ça c'est un phénomène qu'on peut observer de mille manières dans des catastrophes, on va dire, sinon comparables, en tous les cas, au moins aussi importantes. Je m'arrête là.